tendre nos cœurs pour recevoir ta parole aujourd'hui pour nous. Merci de nous parler à travers ces chansons que venons de chanter et nous prions que tu vas continuer de parler. Nous nous soumettons à toi et reconnaissons que nous avons désespérément besoin de toi pour comprendre ta parole et pour vivre selon ta parole. Et que ta grâce soit sur nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez été à l'église les dernières semaines, vous avez remarqué que je n'étais pas là. J'ai passé quelques semaines en Ontario et au Québec où mes enfants et mes grands-enfants, mais mes petits-enfants, et je vais vous dire, ils ont beaucoup de vie, les petits-enfants. C'était une grande expérience, une bonne occasion d'être avec Judy. Certains d'entre vous ont demandé à propos d'elle. Elle va rentrer dans quelques semaines. Elle vous manque comme je vous ai aussi manqué pour les semaines passées. Et j'ai vraiment espoir qu'elle va revenir bientôt et continuer à prier pour elle et pour ma famille. C'est une grande chose d'être de retour. Nous vous avez passé sur la vie de David. Et la semaine passée, le pasteur Vin avait parlé, prêché sur David et Bathsheba. Et il a commencé à aborder le chapitre 12. Aujourd'hui, j'aimerais bâtir sur ce qu'il a partagé et me concentrer sur l'interaction entre David et Nathan au chapitre 12, de 2 Samuel 12. Il y a quelques semaines, un ami m'a invité à un dîner, à partager un gigot, comment puis-je dire cela? Un cuisson, un gigot d'agneau rôti aux cuissons lentes, parfaitement saisi. C'était un moment tendre et savoureux, un moment de pur plaisir, et je confesse que j'en ai mangé trop. Notre histoire aujourd'hui parle de l'amitié, parle d'un gigot d'agneau et de plaisir. La question qui nous guide aujourd'hui, c'est comment Dieu éveille-t-il une âme cautérisée par le péché? Et quand il y a un... Comment Dieu, un péché scellé sur le corps et l'âme. Nous péchons tous. Alors, le péché, c'est quoi? C'est une attitude, c'est une pensée, une intention ou une action contraire au cœur de Dieu. Et comment Dieu réveille-t-il nos cœurs? Lèvons-nous pour lire la parole 2 Samuel 12, 1 à 9. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, pour ce passage. Et vous pouvez aussi regarder cela si vous avez une application dans votre téléphone, dans votre Bible. Et l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis et qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te oins pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül, de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, et tu l'as tué par l'épée, le fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri, le Hessien, pour en faire ta femme. Comme le pasteur Vine nous l'a montré la semaine dernière, le roi David domine tout le chapitre 11 de 2 Samuel. Il convoie Bathsheba, la femme d'Uri, l'un de ses soldats les plus fidèles. David envoie ses serviteurs prendre Uri, alors qu'Uri combat pour lui à la guerre. Et pour cacher son péché, il appelle Uri qu'il vienne, comme ça il pourra coucher avec sa femme. Mais à cause de sa, à cause de son zèle pour le pays, il refuse de coucher avec sa femme. Et David décide, par loyauté envers ses compagnons, et David décide de le faire tuer. Il le renvoie sur le champ de bataille, il meurt, et puis David prend sa femme. Ok, bien que le roi David ait enfreint au moins 7 des 10 commandements, il pense que ses fautes sont cachées. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui ont vu, mais la majorité des gens ne les connaissaient pas. Mais il a vécu longtemps avec ses mensonges. Presque une année entière. Alors, premièrement, Uri, le mari de Bathsheba, a simplement été tué à la guerre. Après, il a légitimement pris une veuve pour épouse. Il n'a donc pas commis d'adultère. Et puis, Dieu lui donne un enfant. Et puis, il lui donne un enfant. Il agit comme un insensé. Le psaume 10:1 dit, il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. David domine, comme je l'ai dit, le chapitre 11 jusqu'au verset 27. Ça finit comme ça. Mais la chose que David avait faite déplut à l'Éternel. Alors David trouve du plaisir dans son adultère avec Bathsheba, mais l'Éternel voit ce que David a fait, et cela ne lui plaît pas. L'Éternel est resté silencieux au chapitre 11, mais il n'était pas absent. Il n'est pas trompé. Galates 6:7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » L'Éternel a vu tout ce que David a fait, les intentions de son cœur, ses manigances et ses actes, il a tout vu. Alors comment Dieu réveille-t-il un âme attachée au péché? Le chapitre 12 est dominé par l'Éternel et sa parole. Au moment parfait, Dieu vient chercher David. Le prophète Nathan se présente à sa porte. Probablement au moins 9 mois après le jour de la naissance de l'enfant. Cela peut sembler cruel pour certains d'entre nous, mais en réalité, c'est une grâce de Dieu. Il envoie Nathan. Nathan est envoyé par l'Éternel pour exposer le péché de David. Sans cela, David resterait dans son péché et il ne serait jamais restauré dans sa relation avec Dieu. Il a vécu dans le secret misérable de ses fautes pendant près d'un an. Si vous pensez que David passait une bonne année, écoutons de nouveau le psaume 32. « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. » Tant que je me taisais, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur s'épuisait comme dans la sécheresse de l'été. David avait perdu toute joie. Il passait des nuits sans sommeil. Et l'envoi de Nathan est un incroyable acte de grâce. Est-ce qu'on reçoit cela comme ça quand les gens viennent nous confronter? Nathan vient présenter une affaire juridique à David, les juges suprêmes d'Israël. Souvenez-vous, David est le suprême juge d'Israël, mais en réalité, c'est une parabole. Une parabole est une histoire simple, facile à comprendre, qui communique une vérité. Elle attire l'auditeur dans le récit avant qu'il ne saisisse le message profond. Ok, dans cette parabole, un riche possède de nombreux troupeaux. Un pauvre n'a qu'une seule petite brebis. Il élève comme sa fille. Elle mange et boit à sa table, dort dans ses bras. C'est le même langage qui dirait la femme couche sur les bras de son homme. On manque quelque chose en anglais. Voyez-vous, Bathsheba signifie la fille du serment. La brebis est comme une fille. Un voyageur arrive chez le riche. Au lieu de prendre dans son troupeau, où il en a beaucoup, il vole la brebis du pauvre et la sert à son invité. Il viole tous les principes d'hospitalité juive et au-delà de tout, de la loi de Dieu. David s'enflamme de colère. Il interrompt le récit. Cet homme mérite la mort. Il doit restituer 4 brebis parce qu'il a agi ainsi et sans compassion. Et David déclare. David connaît la loi. Il n'est pas venu tout seul. Il a pris cette... Il a proposé cela, il connaît la loi de Dieu, il cite directement Exode 22. Mais en condamnant les riches, il se condamne lui-même. Il a un sens de la justice. Et alors que je lisais ceci, une question m'est venue, nos jugements des autres nous condamnent. Comment je me condamne souvent en condamnant les autres, la façon dont nous jugeons les attitudes d'autres personnes. Dieu dit, il utilisera la même mesure que nous utilisons pour les autres. Alors que Nathan, je ne sais pas s'il crie cette phrase ou bien s'il parle juste doucement, alors David déclare, tu es cet homme. Nathan déclare, tu es cet homme. Pas roi, pas prince, juste homme. Pouvez-vous imaginer? Nathan a été envoyé aller confronter l'homme le plus puissant du royaume, une personne qui pouvait prendre sa vie en une seconde. Il apporte un message de réprimande au plus puissant. Souvenez-vous, Nathan et David se connaissent bien. Et Nathan l'a encouragé, vas-y. Quand David vous disait qu'il allait bâtir un temple comme un ami. Et quelques temps après, il revient pour lui dire, tu n'es pas celui qui doit bâtir cette maison, mais Dieu bâtira sa maison. C'est un ami qui supporte, c'est un véritable ami. Et c'est aussi un ami qui apporte la parole de correction. Proverbe 27:6 dit, la blessure d'un ami prouve sa fidélité. Avez-vous des amis comme Nathan? As-tu des amis comme Nathan? Moi, j'en ai beaucoup. Es-tu un ami comme Nathan? Encourageons-nous nos amis, le membre de famille, à continuer de pécher en restant silencieux. En 2 Samuel, chapitre 12, 7 et 8, après avoir percé le cœur de David par la vérité, l'Éternel lui rappelle toute la grâce qu'il a méprisée, toute la grâce qu'il lui a accordée. Il dit, je t'ai accordé le prestige, je t'ai oint roi sur Israël. Je t'ai donné la protection, je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné les possessions, je t'ai donné la maison de Saül. Je t'ai donné la puissance. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et la promesse, j'étais prêt d'en donner bien davantage. Je suis celui qui a la générosité sans limite. Et pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu méprisé ma parole pour faire ce qui est mal à mes yeux? Pourquoi m'as-tu montré un tel mépris? On doit prendre un temps pour réfléchir sur les versets 9 et 10 qui sont le centre théologique et littéraire de tous les livres de Samuel. Voyez-vous, mépriser la parole de Dieu, c'est faire le mal aux yeux de Dieu. Vivons-nous avec connaissance, c'est moquer de la parole de Dieu, c'est agir comme si elle n'avait aucune importance. C'est vivre comme si cela ne valait pas la peine. C'est ce que David avait fait. La parole du Seigneur, nous devons l'écouter, la faire confiance et l'obéir. Comment entendons-nous la parole de Dieu? Par le conseil d'un ami, par une parole prophétique au bon moment, par une prédication, par un podcast, mais le plus souvent par l'exposition quotidienne à la parole écrite de Dieu. Il y avait une enquête en 2011, une grande enquête menée auprès de 5000 chrétiens qui avait été faite au Canada et aux États-Unis. Et la question posée était celle-ci, qu'est-ce qui produit un disciple fidèle de Jésus? C'est quoi? Quelle est la réponse numéro un? C'était l'habitude simple de lire régulièrement la parole de Dieu. Pas seulement la lire comme un exercice académique, mais permettre à Dieu de te parler à travers le simple fait de lire la parole de Dieu, de laisser nous parler, nous enseigner, nous inspirer et nous corriger. Voyez-vous? Nous avons la parole du Seigneur, 66 livres, bien plus que ce que David possédait. Mais nous, l'écoutons-nous, lui faisons-nous confiance ou obéissons-nous ou la méprisons-nous en laissant prendre la poussière sur nos étagères? Ou vivons-nous d'une façon contraire à la parole de Dieu? Voyez-vous, la parole adressée, le péché que David avait commis, nous le faisons nous aussi. La parole adressée à David par Nathan était tranchante. La deuxième partie du chapitre, verset 9, « Tu as frappé Uri par l'épée, tu as pris sa femme et tu l'as tué par l'épée des Ammonites. » Dieu savait exactement ce que David était en train de faire. « David, roi, tu étais censé protéger ton peuple contre l'abus des puissants. Tu as pris Bathsheba, tu as commis l'adultère avec lui et tu as assassiné son mari. » Et tu as caché. J'étais allé pêcher avec un ami dernièrement. J'étais très content. Le poisson était... L'esturgeon est un danger est une espèce en danger. Si vous le capturez, vous devez le remettre dans la rivière. Et l'un de mes amis dans le bateau, et il a demandé le guide que se passerait-il si nous amenions l'esturgeon à la maison. Et le garde, les yeux du garde sont... Il a dit, si vous êtes attrapé, on prend le bateau, on vous prend et vous serez banni, on vous reprend votre permis et on dit que vous pouvez payer une amende qui peut aller jusqu'à 2 millions de dollars juste pour un poisson. Quelle valeur a ce poisson? Et c'est tout, c'est très dur. C'est intéressant ce que nous c'est sur quoi nous mettons des valeurs. Je suis pour cette protection. Quel est le prix qu'une personne devrait payer pour pécher contre le Dieu puissant? Quelle serait la juste punition? Quelle serait la pénalité que quelqu'un devrait payer pour avoir tué une personne faite à l'image de Dieu? Quel prix devrions-nous payer pour mépriser le Seigneur et sa parole? Les conséquences de la parole de David sont soulignées et qui dit l'épée ne s'éloignera jamais de la maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri. Trois conséquences, la violence ne quittera jamais la maison de David, la honte publique. Je vais faire sortir de ta maison le mal contre toi, je prendrai tes femmes. Et il y a eu beaucoup de conséquences qui se sont passées. Et je pense que quand on lit ce qui s'est passé, on trouve cela très choquant. Jésus dit la dernière chose. Jésus a dit que la convoitise, c'est commettre l'adultère. La colère, c'est comme un meurtre, c'est ce que Jésus a dit. Que dit l'envie, la convoitise du succès des autres? Que juger les autres, juger nos voisins et calomnier nos voisins? Qu'en est-il de penser du mal des autres et de nourrir la mauvaise opinion? Le livre de Jacques dit que la langue peut être remplie de poison. Alors, si nous sommes confrontés à propos de nos péchés par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est de se repentir et d'être restauré. Soit répands-toi et sois restauré. Et quelques temps après, dernièrement, j'étais à Montréal avec un de mes petits-enfants. À la fin de la journée, mon petit-fils Léon, qui a 4 ans et demi, et à la fin, il dit à sa mère, ma fille, « Maman, aujourd'hui, c'était vraiment une journée difficile. Nous n'étions pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais on s'aime toujours, n'est-ce pas, maman? » Comme s'ils sont sur comme s'ils ont un même niveau. Il a ses pensées, sa maman a ses pensées. Alors que j'ai pensé à cela, est-ce que cela ne reflète pas ce que nous faisons certains moments avec Dieu? Aujourd'hui, c'était une journée difficile et c'est comme si nous sommes sur la même page. Vous savez la façon dont je pense par rapport à certaines choses, comment j'ai agi, pas selon ta parole, mais nous sommes bien, n'est-ce pas? On s'aime toujours. Au moment où David avait été confronté par Nathan, au moment où Saül, le roi Saül avait été confronté, il essayait de se justifier. Et la parole dit, le commencement de la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse est la parole de la crainte de Dieu. Voyez-vous, Le fou rejette le conseil, la correction. Le fou a toujours raison. Toujours mal compris. Pâle, celui qui doit être blâmé, il est toujours la victime. Lisez à travers le livre de Proverbes. Et tu viendras à comprendre comment le fou répond à la sagesse, à la correction. Quelle est la première réponse de David face à la parole de Dieu? Verset 13. David dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Simple. Il ne cherche plus à couvrir son péché, ni à blâmer quelqu'un d'autre. Dans le psaume 51 où David écrit cet épisode, exprime bien son cœur. Il écrit ceci. « Contre toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » David a confessé en se concentrant sur son péché. Il a péché contre Uri, contre Bathsheba. Mais premièrement et avant tout, il a péché contre Dieu. Sans cela, il n'aurait pas commis l'adultère et le meurtre. Le sage, quand il écoute la parole de Dieu, il s'humilie. Il la reçoive et il se répand. Et si vous lisez à travers le livre de Proverbes, vous allez voir que le fou se moque même de la repentance. Dans ce message où je parle de la transformation des disciples, la liste, comme j'avais dit plus tard, pour qu'une personne devienne un vrai disciple et vive la parole de Dieu, un des points qui a été souligné, c'est la confession et la repentance. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne le faites pas. Et le fait qu'on pêche chaque jour, chaque fois que je vais devant le Seigneur, je demande, y a-t-il quelque chose que je dois confesser? Le Seigneur apporte toujours quelque chose. Nous pêchons tous chaque jour, et si nous ne faisons pas une confession quotidienne, nous n'allons pas avancer dans le Seigneur. Alors que j'ai lisé la parole 15, le Seigneur m'a convaincu de mes propres péchés. Il dit que alors que j'ai lu la parole de Dieu, je suis venu à être convaincu que est-ce que je serai un fou et rejeter ce que la parole, ce que Dieu dit, ou bien me repentir et changer. Le psaume 91 dit que la parole de Dieu est parfaite. Et une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre nos yeux et nous permet de discerner nos erreurs et de découvrir même nos péchés présomptueux. Si tu veux grandir dans la parole de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu et permettre à ce qu'elle parle. Et quand nous sommes convaincus du péché, on se répand. Et ne pas dire « ça, c'est pas moi ». Où je suis comme ça à cause de cela, à cause d'eux, à cause de la culture dans laquelle j'ai grandi, et je veux me justifier d'une certaine façon, je veux jouer à la victime. Non, la personne sage reconnaît ses péchés et se répand. David s'est repenti. Et aussi longtemps, aussi vite qu'il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Et Nathan lui a dit immédiatement, « L'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Le jugement, il y a eu la grâce de Dieu sur David. Voyez-vous, il méritait la mort pour ce qu'il avait fait. Selon la loi, l'adultère, le meurtre était passible de la mort. Mais c'est comme s'il a vécu, comme si la parole de Dieu ne valait rien. Et Dieu a protégé, a accordé sa grâce. Dieu pardonne et Dieu il fait grâce. et il est fidèle. Et pour nous, il est important de reconnaître aujourd'hui que le péché de David a eu quand même des conséquences. Je pense que certains moments dans les églises évangéliques, nous sommes enseignés d'une bonne façon, bien sûr, la grâce de Dieu. Et c'est vrai, Dieu y a une grâce abondante et prêt à pardonner. Mais on voudrait vivre comme si le péché n'avait pas de conséquences. Comme si avec le pardon, toutes les conséquences de nos péchés sont aussi effacées. Et on peut vivre avec une attitude, une mauvaise attitude sur le péché et la grâce. Les péchés ont une conséquence. Comment devrions-nous répondre quand Dieu commence à exécuter sa justice? Dieu nous appelle à nous soumettre. L'enfant qui était né de cette union, première union, était mort. Et David s'est prosterné par terre, il a cherché la face de Dieu. Au bénéfice de cet enfant, il a prié, il a jeûné. Et la mortalité infantile à l'époque était élevée, bien sûr. Mais pourquoi on essaie de le relever, mais David refuse? Et il pense que la guérison de cet enfant était plus importante. Il a prié, espérant que Dieu allait changer. Mais l'enfant est mort comme ça avait été prophétisé. L'enfant n'avait pas eu de nom. Pourquoi? Parce qu'il devait être nommé au huitième jour, le jour de la circoncision. Et David, quand il a appris que le fils était mort, les gens pensaient que David allait désespérer, il allait se faire du mal et peut-être devenir suicidaire. Mais quand David a entendu le péché de son fils, il s'est relevé, il s'est lavé, il a changé ses habits. Et entre dans la maison de l'Éternel et va se prosterner et adorer Dieu. Pourquoi? Je pense que David connaît là où se trouve la vie. Il retourne dans le cœur de l'adoration. C'est lui qui a écrit ces paroles. Tant que l'enfant vivait, la soif de David pour le Seigneur va au-delà de son amour pour la nourriture. Ses serviteurs ne comprenaient rien, ils ne comprennent rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as passé ton temps à jeûner et quand et ton enfant est mort, tu t'élèves, tu vas adorer. D'autres jeûnent pendant ces moments et toi, tu es en train de prendre la viande grillée. Il a dit, tant que l'enfant vivait, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas compassion de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je encore? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. David a reconnu la souveraineté de Dieu dans la vie, dans la mort. Alors qu'il était vivant, il pouvait plaider. Mais quand la souveraineté de Dieu s'est accomplie, selon la prophétie de Nathan, il sait que la volonté de Dieu a été accomplie. Et il doit continuer. Et il dit, dans l'éternité, il verra son fils. Dieu a pardonné David. Dieu a exécuté son jugement. David va continuer de vivre. Son péché ne peut pas définir sa vie. Il doit demander le pardon, bien sûr, et se repentir, mais aussi recevoir la restauration de Dieu. Recevoir la grâce de Dieu et se réjouir. Et devant la grâce de Dieu, recevoir la grâce de Dieu et expérimenter la grâce de Dieu, et il va réconforter sa femme, et par la grâce de Dieu, il lui donne un autre fils qui va nommer Salomon, qui veut dire Dieu restaure. C'était une gratitude envers le Seigneur pour la restauration. David et Bathsheba pourraient peut-être penser, un de nos enfants va être sous la malédiction, le premier est mort. Et Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé le prophète Nathan vers eux pour leur dire, et il dit ceci, il l'appela Jedidiah, l'aimé de l'Éternel. Ce nom, avec David, ont la même racine. Quelque chose est communiqué ici, que le fils deviendra le prochain David, il va être le fils. Et dans sa descendance viendra probablement le Messie, deviendra Messie. Et il viendra de la lignée de David, pas à cause de sa justice et de sa grâce, parce que cette famille n'est pas parfaite. Mais Dieu va confirmer sa promesse et tous d'entre nous sommes pas parfaits et nos familles, et comment on répond par rapport à la grâce de Dieu. Romains 3 dit, nul n'est parfait, aucun ne comprend, aucun ne cherche Dieu. Romains 3, 10 dit, tous ont péché et ont été privés de la grâce de Dieu, et ils sont justifiés par la grâce de Dieu à travers le don de la rédemption qu'il y a en Christ. Jésus seul. Nous vivons sous la souveraineté et la connaissance et la présence de Dieu. Il connaît mon cœur. Je ne peux pas manipuler, mentir Dieu. Il connaît mes pensées, mes attitudes, mes intentions. Il sait ce que je fais, il sait ce que je suis en train de faire, et c'est vrai pour toi aussi. Parce que cela est une vérité, parce que Dieu connaît toutes choses, et que nous sommes pécheurs, et nous sommes tous nous faisons des choses contraires au cœur de Dieu. Il a envoyé son Fils unique pour notre salut, parce qu'il savait que nous ne pouvions pas nous sauver seuls. Et Jésus a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs, sur lui. Il a payé le prix pour nos péchés, afin que le péché que nous ne pourrions jamais payer, afin que nous puissions avoir l'opportunité de placer notre foi sur lui, Jésus. C'est ce qui se passe quand nous nous soumettons à Jésus pour la première fois. On dit, ok Seigneur, j'ai désespérément besoin de toi. Je suis un pécheur, je place ma foi sur toi, sur le sacrifice que tu as fait pour moi, je te reçois comme mon Seigneur. Peut-être c'est là où tu es aujourd'hui, c'est une opportunité de soumettre ta vie à Jésus et de recevoir le pardon et la vie qu'il a pour toi, qu'il puisse te réconcilier avec Dieu. Peut-être que tu es un disciple de Jésus et ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est ce que David a fait, de t'humilier devant le Seigneur et de dire que j'ai péché contre toi, restaure ma joie, la joie de ton salut. Ça devrait être une pratique journalière. Il dit que si nous confessons, 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il va nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Et il y a une voie pour la restauration, il y a une voie pour vivre sous la main gracieuse de Dieu. Mais cette voie, c'est pour arriver à cette voie, c'est la confession, la repentance et la soumission et l'adoration. Peut-être que tu le fais pour la première fois aujourd'hui, ou tu l'as fait déjà 1000 fois, où que tu sois dans la grâce de Dieu, que tu puisses te trouver sous le pied de la croix, ouvrir le cœur au Père qui t'aime profondément et qui t'aime beaucoup, qui l'a envoyé son Fils unique pour ton salut. Psaume 58, voici ce que David a prié après qu'il ait péché. Et pitié de moi, selon ton amour, selon ton grand amour. Efface mes transgressions. Verset 4. Contre toi, toi seul, j'ai péché et fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié dans ta parole et crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit juste en moi. Ne me chasse pas de ta présence, ne prends pas ton Saint-Esprit de moi, restaure en moi la joie de ton salut et donne-moi un cœur disposé, un esprit disposé. En ces moments, entre toi et le Seigneur, ces paroles vont rester sur l'écran pour permettre au Seigneur de te parler, la façon dont tu te demandes de répondre, et après on va joindre les groupes de louange.